Voilà, donc on va prendre une vingtaine d'huîtres pour les analyses de virus et puis une dizaine en plus pour les analyses de bactéries. C'est deux types de pathogènes différents et c'est pas les mêmes analyses après au laboratoire. J'essaie de prendre les plus grosses possibles parce qu'après avec mes collègues quand on les ouvre, plus elles sont grosses, moins on a besoin d'en ouvrir. On essaye de venir à marée basse pour pouvoir avoir accès aux huîtres qui poussent sur les enrochements, des huîtres sauvages. J'essaie de prendre à des endroits un peu différents. Ma collègue Johanna est partie derrière, là justement, pour pas que ce soit toujours le même point exactement. Pour que ce soit plus représentatif généralement du milieu. Ce qu'on voit, c'est la plage de Villers-Martin. Il y a une étendue sableuse. Elle est entourée de deux avancées rocheuses qui s'élancent vers l'estuaire. Il y a un petit phare aussi, avec les balises. Des fois, on a des paquebots qui passent. Et on voit Saint-Brévin de l'autre côté. Je suis Marion Dédouy. Je suis chercheuse en virologie au laboratoire santé, environnement, microbiologie de l'IFREMER. Et j'y développe des projets pour comprendre la contamination du littoral et surtout des coquillages par les virus de gastro-entérite. Je m'intéresse à la fois à leur diversité et à leur persistance, puisque ces virus sont capables d'infecter une personne. Donc on essaye aussi, avec mon équipe, de savoir combien de temps les virus sont capables de rester infectieux dans l'environnement et de pouvoir un peu mieux relier un signal génétique du virus avec un risque pour la santé. Sur ce site, on sait qu'on a déjà eu par le passé des virus de gastro-entérite dans les huîtres. Donc on vient ramasser des huîtres régulièrement. Dans nos études passées, ce qu'on a remarqué, c'était qu'on avait des sites contaminés près de l'embouchure des grands fleuves. Et donc une de nos hypothèses, c'est qu'en fait, ici, la contamination, elle intègre celle du bassin versant, mais bien plus large que simplement Saint-Nazaire. Ça pourrait venir beaucoup plus de l'amont. Et c'est aussi quelque chose qu'on espère voir au cours du projet, faire la différence entre une contamination qui viendrait de plus en amont et une contamination plus locale, peut-être en regardant le délai entre l'apparition de la contamination et les événements d'assainissement qui peuvent avoir lieu sur le bassin versant. Mais c'est effectivement une des questions qu'on se pose. Est-ce que ce site, il a un problème local d'assainissement, mais il n'y a pas de raison de penser ça, parce qu'en particulier, il n'y a pas beaucoup de bactéries. Ou si c'est pas justement que comme les virus sont plus résistants, ils pourraient venir de plus loin. Et donc ici, dans un grand estuaire comme celui-là, finalement, avec des grandes villes comme Nantes, Tours, beaucoup plus haut, peut-être que la contamination peut aussi venir de plus loin. Dans ce cas-là, elle poserait peut-être moins de problèmes aussi, puisque les virus pourraient avoir été dégradés avant d'arriver. C'est aussi des questions qu'on se pose dans le cadre du projet. Pour l'instant, on a déjà des données d'autres études par pas mal d'équipes dans le monde qui ont montré qu'il y avait un lien entre la pluviométrie notamment et la contamination. C'est-à-dire qu'évidemment, plus il pleut, plus les stations d'épuration risquent de déborder, plus les réseaux vont aussi connaître des fuites et des débordements, plus le milieu va être contaminé. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être assez complexe parce que la pluie, ça peut être un petit peu de pluie pendant longtemps, beaucoup de pluie pendant peu de temps. Et on sait avec le changement climatique qu'on va avoir de plus en plus de ces événements un peu extrêmes où il va pleuvoir énormément en peu de temps. Quand il y a énormément de pluie en peu de temps, on risque d'avoir plus de débordements, mais on peut aussi avoir un impact sur le coquillage. S'il y a par exemple trop d'eau douce, ils peuvent aussi arrêter de filtrer par exemple, simplement se fermer et attendre que la catastrophe passe. Donc ça peut aussi avoir un effet retard, c'est-à-dire que la contamination elle peut se passer un peu plus tard aussi. Et l'autre volet, c'est la sécheresse, c'est quelque chose qui n'a jamais été abordé sur la contamination virale. Ça n'a jamais été abordé, donc en fait on manque beaucoup de données, ne serait-ce que sur la période estivale pour la contamination. Or, en période estivale, même si on consomme moins les coquillages. Il reste un indicateur intéressant de la qualité du milieu. Et bah, c'est aussi en période estivale qu'on profite de ce milieu côtier. Donc c'est important de quand même savoir ce qui s'y passe. Au-delà des surveillances des plages qui sont faites régulièrement, aller un peu plus loin sur utiliser aussi le coquillage pour savoir ce qui se passe. Donc tout ça, en fait, c'est aussi des choses qu'on adresse dans le projet, essayer de comprendre, est-ce qu'on a des seuils sur cette pluviométrie, est-ce qu'on a des délais. Donc à la fois, on a des soupçons sur des paramètres importants, et en même temps, on attend aussi du projet peut-être de nous surprendre sur des choses qu'on n'attendait pas, puisqu'on utilise une approche nouvelle, et que c'est aussi, ça me permettra peut-être de lever le voile sur des choses qu'on ne comprend pas encore. C'est tout l'intérêt de faire de la recherche, en fait. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver. Voilà, il faut faire attention, on met les pieds. Il y a un mélange de vase et de cailloux et un peu de varech aussi, donc ça glisse. J'essaye d'aller un peu plus loin. Parce que plus on va vers le large, en fait, plus les huîtres sont fréquemment sous l'eau. Donc plus il y a des chances qu'elles aient filtré et qu'elles se soient contaminées. Si on les prend trop près du bord, elles sont souvent à sec, sont moins en forme et elles sont moins représentatives du milieu aussi. Aujourd'hui, on a pris les petites bottes, mais on aurait peut-être dû prendre les cuissardes. Donc je pourrais pas aller très très loin, mais ça suffira. On va prendre un sac et tout simplement, on va aller les ramasser comme pour de la pêche à pied. Même si je recommande pas forcément de consommer cela. On trouve quand même assez souvent des traces de virus dans ces échantillons-là. Donc, bon, c'est pas forcément super bon pour la santé. Quand on ramasse les huîtres, après, on mélange toutes les chairs d'huîtres ensemble. Pourquoi on fait un focus sur les huîtres ? En fait, on a une expérience de longue durée qui nous montre que c'est quand même les meilleurs indicateurs de la qualité du milieu, parce que ce sont ceux qui vont filtrer des plus grands volumes d'eau. Alors effectivement, il y a d'autres coquillages sur ce site. Il y a quelques bigorneaux, mais les bigorneaux filtrent pas. Il y a des moules. Alors les moules aussi sont des animaux filtreurs. Elles peuvent être contaminées. Sur le site de Villas-Martin, on a très très peu de moules. Elles sont très petites, donc les coquillages les mieux, c'est les huîtres. Et de manière générale, c'est sur les huîtres aussi qu'on a le plus de données en France et dans le monde, parce que ce sont celles qui sont plus consommées et consommées crues, donc qui posent plus de soucis en termes de qualité microbiologique et sur lesquelles le plus de recherches est faite. Une fois qu'on a fini de ramasser l'échantillon, on le met dans une glacière pour le transporter jusqu'au laboratoire au frais. Il ne faut pas que l'échantillon chauffe trop, sinon les bactéries elles vont mourir. Et après, elles ne vont plus pouvoir pousser, donc on pourra peu avoir le résultat de notre analyse. Et pour les virus, ils sont plus résistants, enfin ils ne se multiplient pas dans l'huître parce que c'est des virus qui nous infectent nous, qui infectent pas les huîtres, ce qui nous intéresse en tout cas. Mais par contre, ils peuvent se dégrader. Donc c'est pareil, si l'échantillon chauffe, ils vont se dégrader et après on aura plus de mal à les détecter.
Ça coule fort. Un litre ou deux.
Comme tu le sens, c'est toi qui vas analyser derrière.
Oui, peut-être deux.
Ouais. Je mets des gants. Bon, maintenant, on va prélever un peu d'eau. On essaye, bien sûr, si les coquillages se contaminent, c'est parce qu'ils filtrent des grandes quantités d'eau pour se nourrir. Et ce faisant, ils vont concentrer les microbes qui vont être présents dans l'eau. Donc on essaye aussi d'analyser l'eau, c'est plus compliqué, parce que évidemment ils font un travail qu'on doit répéter du coup, sauf qu'ils le font naturellement. Et c'est pas toujours simple, c'est une eau qui est parfois assez turbide, avec beaucoup de matière en suspension. Donc pour la concentrer et pouvoir l'analyser, c'est un peu compliqué. Mais on fait des mises au point là, donc on prélève un peu d'eau pour nos tests. Donc pour ça j'ai mis des gants pour pas contaminer les bidons avec mes propres bactéries de mes mains. Il y a un peu de vent, donc il y a un peu de vagues, donc je pense qu'il y aura beaucoup de matière. Ce qui en soi n'est pas forcément inintéressant. Ça rend l'échantillon plus difficile à analyser, mais on pense que les virus qui nous intéressent s'accrochent aux particules de matière en suspension, donc c'est aussi intéressant d'analyser cette matière. Là, en fait, on va faire des tests de préfiltration pour voir la taille des particules qui sont présentes dans l'eau. Donc, on n'a pas besoin d'un très, très gros volume. Parce que dans l'eau, les virus sont très dilués. Hein. C'est un estuaire qui est très vaste. Donc, même s'il y a plusieurs sources de contamination, ça reste beaucoup, beaucoup d'eau. Et au final, c'est pour ça qu'à la baignade, il n'y a pas de risque. Ces virus, ils viennent de nous. En fait, c'est des virus qui circulent dans la population humaine, un peu en permanence. Donc, je vous ai dit que norovirus était associé à l'épidémie de gastro-entérite hivernale. Mais en fait, dans les eaux usées, dont nous sommes les principaux contributeurs, les eaux usées urbaines, on trouve du norovirus toute l'année. En plus en hiver, mais on en trouve aussi en été. Donc, ils circulent dans la population un peu toute l'année.
Et donc c'est le même virus qu'on peut retrouver dans les coquillages, donc c'est comme s'il y avait une boucle, c'est ça?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que ce virus, il se propage, enfin norovirus et les autres virus qu'on étudie dans ce projet, il se propage principalement dans la population, par les contacts, des fois des défauts d'hygiène sur les mains, des choses comme ça. Et puis il a aussi cette capacité à être transmis via l'environnement, par la contamination de l'eau, donc de l'eau potable. Ça n'arrive plus chez nous, parce qu'on a des bons traitements de l'eau potable, mais ça a été le cas, je pense, pendant des siècles. Et puis aussi par les aliments, ça se produit toujours, parce que notamment comme les coquillages sont capables de filtrer de grandes quantités d'eau pour se nourrir et qui concentrent la contamination, eh bien il reste un danger de ce point de vue-là. Et donc une des questions qu'on se pose, c'est quelle est la quantité de ce virus dans les eaux usées qui sont la source de contamination, combien on en retrouve dans les coquillages, et puis aussi, est-ce que c'est les mêmes, puisque je vous ai dit qu'il y en a en fait beaucoup de différents, donc est-ce qu'après si on va séquencer, essayer de comprendre lesquels sont dans les eaux usées, lesquels sont dans les coquillages, est-ce qu'il n'y a pas une sélection par le milieu, par le coquillage, pour aussi mieux caractériser le risque. Donc on a un focus principal sur norovirus, aussi parce que dans les coquillages, c'est souvent lui qui va être associé à des cas d'infection alimentaire. Donc c'est le plus gros problème de santé publique par rapport à la consommation de coquillages, actuellement, en tout cas chez nous. En parallèle, cet endroit, il est suivi par l'Agence régionale de santé, qui émet des bulletins sur son avis de contamination microbiologique. Donc nous, on n'a pas une vocation opérationnelle, on ne se substitue pas aux services de l'État compétents sur ce sujet. Par contre, on essaye de comprendre plus finement ce qui se passe, et peut-être qu'à la fin du projet, on aura effectivement des recommandations à faire aux ces autorités concernant le site en particulier et sa gestion. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait plus de données, c'est encore un peu fin. Et un autre suivi qui est vraiment mis en place par les services compétents. On a déjà fait un retour auprès des exploitants de stations d'épuration et de la qualité de l'eau de baignade de Saint-Nazaire. On leur a présenté nos premiers résultats. Et ensuite, au cours du projet, dans la deuxième partie, donc qui va commencer maintenant, on va organiser des ateliers pour discuter avec eux, plus en détail du projet, parce que même s'ils sont au courant, ils ne sont pas forcément tous les tenants et les aboutissants, de ce qu'on espère y trouver, et puis aussi de ce qu'eux, ils attendent d'un tel projet. Notamment parce que l'outil de prédiction, si on arrive à avoir un modèle, on veut l'implémenter dans un outil de prédiction qui permettra d'aider les conchyliculteurs ou les collectivités locales à prédire cette contamination et à prendre des décisions éclairées. Mais pour ça, on a besoin aussi de savoir quel type d'information leur est utile, parce que si on leur prédit la contamination à 2 heures en avance, ça ne va pas forcément les aider beaucoup. Donc ça va être des questions sur quels sont leurs besoins, et aussi probablement on aura des retours sur quelles sont leurs connaissances du milieu qui nous permettront aussi de mieux comprendre ce qu'on a observé pendant le projet. On a remarqué qu'ils ont hissé le drapeau jaune Et en fait, on est étonné parce qu'il fait très beau, donc on se demande si c'est pas une question de contamination. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt un drapeau violet et que c'est tout simplement interdit. Enfin, pour en être sûr, on va aller voir la raison pour laquelle ils ont mis le drapeau jaune. Oui, tu vois la pollution ?
Oui.
C'est violet, hein. Non, jaune, ça peut être l'écart de température entre l'air et l'eau aussi.
C'est rassurant.
Bon, tout va bien.
Tout va bien.
C'est important aussi d'avoir d'autres sources de données toujours. Plus on a d'informations, plus on est capable d'analyser nos résultats. Donc comme il y a des suivis de qualité de l'eau au niveau bactérien, réglementaire, tous les jours sur la plage, et ben on utilise aussi ces informations.
C'était la virologie des coquillages, premier épisode. Avec Marion Desdouit, chercheuse au laboratoire santé, environnement et microbiologie de l'IFREMER Nantes. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast. Avec le soutien de la ville de Nantes.